Bonjour à toutes et à tous, c'est JD. On attaque le dernier. Et ouais, fallait bien que ça arrive. Une série, ça commence, ça finit. C'est le dernier épisode de la série dédiée à l'histoire du parc de la Tête d'Or. Et pour ce dernier épisode, on va terminer cette grande visite du parc en allant nous recueillir non pas devant un monument, mais carrément sur une île entière que Tony Garnier a imaginée pour être le dernier sanctuaire des milliers de Lyonnais qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. Alors en plus d'être au cœur du parc, au milieu des eaux du Rhône, l'île entière est d'une symbolique incroyable. Même si, bon, à la base, Tony Garnier avait prévu un monument complètement fou et sur la colline de Croix-Rousse. Mais je ne vous spoil pas plus, on va voir tout ça en détail dans cet épisode réalisé en coproduction avec les archives de la ville de Lyon. Allez, c'est parti sur les traces de l'histoire.
Comment est mort Napoléon ?
Il est mort guillotiné, comme Bonaparte. Bah, comme tous les rois, en fait.
Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ?
Les Japonais ?
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
On va se diriger vers l'île du souvenir, et pour ça on va passer par la grande île. Donc là on n'était pas loin du lac. On voit le fameux chalet du parc qui est maintenant en béton. C'est plus du tout un chalet. Avant c'était un chalet en bois, hein. C'était hyper stylé, une petite cahute, on pouvait aller boire des coups. Maintenant c'est plus du tout le cas, et quand je dis maintenant, ça remonte au milieu du 20e. On va se diriger direction la magnifique Grande Roseraie. Donc pour ça il faut passer par la Grande Île. On pourra jeter un coup d'œil sur le vélodrome, parce que oui, il y a un vélodrome sur une île dans le parc. Et je vais même aller plus loin. L'été, il y a une piscine dans un vélodrome, sur une île, dans le parc, dans la ville. Voilà, les poupées russes. Moi je trouve ça, présenté comme ça, c'est assez rigolo quand même. Donc on va passer la grande île, comme je disais tout à l'heure, et puis ça va être bien. J'aurais peut-être dû prendre mon vélo, parce qu'en fait c'est cher loin. Et je sens que je vais mettre 1h30 pour revenir. Ouais. Bon, c'est définitif, j'aurais dû prendre mon vélo. Parce que là, c'est hyper... Bon, ouais, ça me fera un peu de marche. Hein. On est là pour se balader, hein. On n'est pas là que pour enchaîner les histoires. Alors vous voyez que quand on arrive sur la grande île, on est du coup devant le vélodrome Georges Préveral. Mais c'est surtout, c'est là aussi, il y a la gare pour prendre le petit train, si jamais... Donc on va faire le tour par la gauche, parce qu'il y a une statue qui est assez cool, un peu en montant là. On va s'y diriger. Ah ben voilà, je savais bien que c'était une statue stylée. En fait là, il y a la statue... de Jean-Claude, ils l'ont appelé Jean-Claude, alors que c'est Claude Marius. Bref, voilà, donc au moins vous voyez à quoi ressemble ce fameux Claude Marius Weiss, ou Jean-Claude, hein, comme ils l'ont appelé ici. Peut-être qu'il s'appelait Jean-Claude Marius, hein. Il a peut-être trois prénoms, hein. Ça se faisait pas mal au 19e. Hein. Voilà, créateur du Par la Tête d'Or, préfet du Rhône. Ça, vous voyez, j'avais même dans mon script, c'était pas prévu. Mais au final, c'est très bien. Voilà, ce fameux... préfet Weiss qui a modernisé Lyon. Il a tout pété et nous a fait une ville de Lyon qui est rentrée dans la modernité. Voilà, maintenant, est-ce que c'était une bonne chose ou pas ? Moi je vous dis juste ce qu'il a fait, les faits, et vous vous débrouillez avec. Là, on peut en profiter pour regarder justement ce magnifique vélodrome. Il ressemble tout à fait. Je crois pas que ça soit Tony Garnier qui l'ait fait, celui-là. Tony Garnier, c'est quand même celui qui a fait la majorité des gros équipements sportifs dans les années, entre les années 20 et les années 30. Hein. C'est celui qui a fait tous les gros. Qui a fait notamment le stade de Gerland. Hein. Voilà, on va pas se. Ah, je suis en train de spoiler ce que je veux dire tout à l'heure. Mais on va en parler de Tony Garnier. On y va, là. C'est tout est question de lui sur le dernier chapitre. Donc je vais pas commencer à me. en mettant dessus, parce que ça faisait partie, en gros, c'est l'évolution du mouvement hygiéniste. L'évolution du mouvement hygiéniste, ça passait donc par l'hygiène, hein, par la santé publique, mais ça passait aussi par l'accès accru aux équipements sportifs municipaux. Donc on a construit partout, notamment le stade de Gerland, hein, mais il y avait plein de choses qui ont été construites, et notamment des piscines municipales, des vélodromes, etc. Et tout ça, c'était gratuit. Et le but, c'était toujours, voilà, un corps sain, dans un esprit sain, toujours la même devise. Ah, j'adore cette statue, là, qui surplombe le vélodrome. Elle est prise dans le lierre, on est vraiment entre deux types de textures, la pierre, le lierre, je trouve ça trop beau. On dirait comme une antiquité, comme une ruine qu'on vient de découvrir après des années, alors qu'en fait non, ça date de 1930, c'est pas non plus un truc de fou quoi. Mais c'est stylé. Allez, on va aller voir l'île du souvenir, let's go. Et voilà, on arrive au fameux passage pour emprunter. Vous voyez que, en fait, sur notre gauche, il y a un tunnel. Et c'est bien fait parce qu'on a vraiment l'impression qu'en face, il y a des marches qui descendent dans l'eau et qui te permettent de traverser. Alors, tu peux le faire si tu es scaphandrier. Hein. Moi, perso, vu que j'ai pas de scaphandre, je vais emprunter le tunnel. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on voit le petit écriteau, c'est écrit « Île au souvenir ». Ah, c'est « au souvenir », je dis « du souvenir », mais c'est « au souvenir ». Bon, ça marche aussi, hein. Vous allez vous rendre sur l'île au souvenir. Elle abrite le monument aux morts édifié pour honorer la mémoire des 10 600 Lyonnais morts pour la France lors de la guerre 14-18. Merci de respecter celui de mémoire de recueillement. Donc là, il faut en profiter. C'est le seul endroit où en fait on est littéralement sous le lac. Il n'y a aucun autre endroit dans le parc où on peut être sous le lac. A savoir que jusqu'en 1935, il n'y avait aucun autre moyen d'accéder au lac que en prenant une barque. Donc le tunnel, il a été construit justement pour permettre à plus de gens de venir, parce que mine de rien, il n'y avait pas 74 milliards de barques disponibles en embarcadère. Embarcadère, hein, quand on sait prononcer les mots correctement. Et voilà, on arrive de l'autre côté, sur l'île du souvenir. Ah ben non, l'île au souvenir. Je suis encore planté. Bon allez. Et c'est encore plus... je viens de réaliser que en fait, on arrive à l'île dans un jour qui est assez particulier, puisque on est... Enfin, là, j'enregistre, on est un 1er novembre. Donc, clairement, on n'a pas de date mieux choisie pour arriver sur cette île aux morts et vous voir raconter l'histoire de ce monument érigé en l'honneur des morts lyonnais à la guerre 14-18. Donc, évidemment, derrière nous, on a le monument, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder cette magnifique architecture. Je vais parler un peu plus bas, hein, parce que, bon, il faut se recueillir. Et on va respecter les morts. Mais on a une magnifique vue sur le lac, l'embarcadère en face. Monument classé aussi, l'embarcadère, hein, Art Nouveau. Un des seuls bâtiments lyonnais. Et on voit même les pics de Fourvière derrière. On voit les quatre tours de Fourvière qui sont juste derrière le bâtiment là, qui borde le boulevard des Belges. Et on voit évidemment l'entrée des Enfants du Rhône où on était tout à l'heure. Cette grande porte dorée, là, le grand portail. Voilà. Moi perso, c'est ma vue préférée du Par la Tête d'Or. C'est exceptionnel. Ah, pour vous, ouais, je vais mettre un endroit où il n'y a pas trop de caca d'oie, parce que là c'est tapissé. Hein. Les oies, pas de respect pour les morts. Hein. Dégueulasse. Pour mettre un peu de contexte, vous n'êtes pas sans savoir, et vous avez dû remarquer, hein, que dans chaque ville, chaque mini-village de France, il y a un monument aux morts pour commémorer la guerre de 14-18. Tous sans exception, hein, je crois, à moins que ça soit un lieu dit, et encore, des fois il y en a quand même, c'est incroyable le nombre de monuments pour commémorer cette guerre. Toutes les villes, elles ont débloqué un budget plus ou moins énorme pour avoir la plus belle statue, le plus beau monument. C'était vraiment une compétition. Hein. À Paris, le long du Père Lachaise, il y a cette immense plaque qui court sur des centaines de mètres. C'est impressionnant. On voit des dizaines et des dizaines de milliers de noms. À Bayonne, c'est un immense rempart sculpté le long de l'ancien fort militaire. Bon, moi, je parle uniquement de ceux que je connais et qui m'ont marqué, mais vous le savez autant que moi, hein, une ville française classique, c'est une mairie, une église, une école, un boulanger et un monument aux morts, quoi. Enfin, même si en vrai, des boulangers, il y en a de moins en moins. Donc évidemment, Lyon, qui était une des grosses villes, qu'on pourrait dire en arrière, hein, c'était la ville des hôpitaux, hein, c'était une grosse ville de soutien pendant la guerre, on a envie de faire un truc spécial. Et quand je dis « on », je parle du conseil municipal et de la ville, qui même pas la guerre finie, hein, parce qu'on est en mars 1918, on commence à débattre de l'utilité d'un monument pour les Lyonnais tombés au combat. Le maire de l'époque, Édouard Herriot, était partisan d'un monument commémorant tous les morts. En fait, il s'écharpe avec ceux contre l'idée d'une telle construction et ceux qui sont plus à célébrer la patrie plutôt que les hommes. Ça devient idéologique, tout le monde essaie de se tirer la couverture et les débats n'en finissent plus, contrairement à la guerre qui, elle, bah, le 11 novembre 1918, se termine pour de bon. En 1919, Édouard Herriot obtient gain de cause et c'est son architecte chouchou, ce brave Tony Garnier, donc on en parlait tout à l'heure, qui était architecte officiel de la ville. Et là, du coup, en 1919, il a déjà construit le stade de Gerland, les abattoirs de la Mouche, c'est ce qu'on connaît comme la halle Tony Garnier, l'hôpital de la Grange Blanche, et c'est lui, du coup, qu'on désigne pour faire un monument à Lyon, je cite, « digne de l'héroïsme de ses fils tombés face à l'ennemi », comme on peut lire sur la fiche de souscription placardée partout en ville à l'époque. Parce que oui, on est en 1919, mais la guerre a littéralement ruiné le pays. Donc on part, encore une fois, sur une grande cagnotte litchi pour construire ce monument. Faut que j'arrête, hein, on va croire que je suis sponsor par litchi alors que pas du tout. Hein. Tony Garnier, dans la continuité de son immense projet architectural de cité industrielle qu'il a commencé avec les bâtiments que je vous ai cités juste avant, bah en fait, il se met la chauffe et il dessine un truc de malade. Mais quand je vous dis un truc de malade, genre un truc, genre à un moment, il va falloir casser 2-3 rues, quoi. Un truc du style, bon les gars, le préfet Weiss, là, avec ses percées pour faire la rue de l'Arrêt, c'était pas mal, hein, pour un début, mais là, on va voir plus grand. Dans sa tête, Tony Garnier, il veut continuer de la rue de la République, qui jusqu'alors, et comme aujourd'hui, s'arrête au terreau, quoi, enfin, tu sais, entre l'opéra et l'hôtel de ville, et ben lui, il veut la continuer, comme ça, en plein milieu, bing, direction la Croix-Rousse et le Gros Caillou, mais tout droit, hein, même largeur d'avenue, en mode gros boulevard, là, qui monte les pentes, pour arriver sur le plateau, et à la place du Gros Caillou, un énorme temple avec des colonnes dans le style classique, genre Rome ou Grèce antique, quoi. Et ce projet, il l'appelle Athéna. Et ce Parthénon à la lyonnaise, il le fait orienter plein ouest. Plein ouest, direction quoi? Je vous le donne dans le mille. Direction la basilique de Fourvière. Et ouais, on est sur un gros clash des monuments entre la colline qui prie et la colline qui travaille, entre la République et la religion. Au moins, ça a le mérite de respecter et de s'ancrer dans l'histoire lyonnaise. Ça, pour le coup, on ne peut pas lui enlever. Et en plus, c'est vraiment ça qu'il voulait faire à l'époque, le Tony Garnier. Parce que, bon, en soi, cette architecture classique qu'il veut faire, le choix d'un temple aux grandes colonnades à la mode romantique, ce n'est pas un hasard. Comme je le disais, il veut vraiment s'inscrire dans l'histoire lyonnaise. Sauf qu'à l'époque, en fait, niveau archéologie, on ne sait toujours pas où est situé le sanctuaire des Trois Gaules, ni son amphithéâtre. Je le disais tout à l'heure, en fait, le lieu qui est jadis était connu dans tout l'Empire romain, c'était le centre de la vie politique des Trois Gaules. Hein. En fait, il dort encore sous la Croix-Rousse en 1919. Il faudra attendre 1956 pour qu'on sache enfin que c'est ce monument. En 1919, c'est encore qu'une hypothèse qui est peu étayée. Tony Garnier, il veut faire référence en fait à la grande époque romaine où Lugdunum était capitale des Gaules, ce qui rend le projet encore plus audacieux. Bon, en 1920, Tony Garnier, il remet au conseil municipal ses plans pour la construction de son Athéna, qu'il budgétise pour la modique somme de 3 millions d'anciens francs.
Non, mais non, je ne vais pas crier.
Combien ?
Évidemment, au conseil municipal, ça n'a pas trop discuté sur la symbolique du projet, on a plus regardé les factures, et du coup, l'avis final a été rendu dans la foulée.
Fuck you, Tony !
Voilà, retour à zéro. Pire même, hein, puisque Tony Garnier, qui était l'architecte désigné, hein, bah, se retrouve maintenant mis en compétition. La construction du monument aux morts devient un appel d'offres public. Tony Garnier et son copain sculpteur Jean Larrivé, qui étaient tous les deux à penser le projet, à le construire, se retrouvent, en plus de devoir penser un truc plus light niveau budget, à devoir se défaire de la concurrence. Donc c'est plus un seul projet de monument aux morts qu'ils sortent, mais 6. Et Tony Garnier ne compte pas lâcher son idée de rendre hommage au passé romain de Lyon. Il conçoit autant de projets qu'il y a d'hypothèses valables d'endroits, de spots où pourrait se trouver ce fameux sanctuaire des Trois Gaules. Du coup, premier spot hypothétique, en face d'Ainé. Vu qu'il ne pouvait pas le faire à Ainé, il l'a fait en face. Il imagine un rempart monumental qui prend l'entièreté de la pente de la colline le long du quai Fulchiron, avec un énorme escalier qui prend pied directement dans la Saône, depuis lequel on pouvait admirer un mur immense avec les noms de tous les Lyonnais morts au combat. Bon, même s'il y a une vieille source qui dit que le sanctuaire est ici, lui, il n'y croit pas trop. Hein. Donc, à la fois que le sanctuaire soit là, puis que même le projet soit viable. Hein. Faudrait que je vous partage les images, mais il a fait un truc. Ça rigole pas. Hein. Deuxième projet, à un deuxième endroit hypothétique, à la pointe de la Confluence. Il imagine deux colonnes herculéennes prenant pied directement à la jonction du Rhône et de la Saône, qui se rejoignent pour soutenir une statue de pierre représentant un lion encadré par un homme et une femme, symbole des deux cours d'eau lyonnais. Bon, perso, entre ça et le musée des Confluences, j'ai fait mon choix. Hein. Mais encore une fois, c'est basé sur un vieux texte romain qui dit que le sanctuaire se trouvait à la confluence du Rhône et de la Saône. Donc ça peut être là. Mais bon, la confluence, en 2000 ans, elle a bougé. Et pas qu'une fois. Bah du coup, on sait pas vraiment. Ça reste une hypothèse. Allez, troisième hypothèse. Il imagine un immense projet de forêt, de stèles mortuaires au sein même du cimetière historique lyonnais, le cimetière de Loyasse. Loyasse, j'ai jamais su comment on dit. Le cimetière de Loyasse, on va dire là-haut, à Fourvière, près de la Sarra. Et enfin, une tout aussi monumentale muraille surplombant une esplanade surélevée dans le parc de Montchat. Bon, au fond, Tony Garnier, ce qu'il veut, c'est de proposer un monument laïque, où les familles pourraient se recueillir dans la sérénité et sans récupération politique, religieuse ou patriotique, qui est, vous l'imaginez bien, très forte en ces temps de fin de guerre. Donc finalement, Tony Garnier, il se dit que s'il veut vraiment gagner le concours, il va essayer de se conformer à l'appel d'offres, où en fait, si on lisait les petites lignes... Là, typiquement, il a lu les petites lignes du contrat, et c'est écrit... que les projets proposés peuvent se faire n'importe où sans aucune restriction, mais que la municipalité offre un emplacement dans le parc de la Tête d'Or. Donc Tony Garnier se dit, bon, allez, vas-y, sixième idée de projet, je vais partir sur un projet sur mesure dans le parc. Donc ça y est, on arrive enfin à notre île du souvenir. Bon, j'ai tardé, hein, mais c'était pour vous captiez bien, en fait, toute la puissance évocatrice de ce monument à travers sa conception et surtout son époque à laquelle il a été pensé. Ça permet aussi de faire une introduction à Tony Garnier, à ce qu'il avait dans la tête, et peut-être qu'un jour, il y aura un podcast sur Tony Garnier. Qui sait ? Bon, de fait, vu l'emplacement géographique du parc, il est obligé d'abandonner son histoire de sanctuaire des Trois Gaules. Voilà, pour le coup, il n'y a pas une seule hypothèse qui le place sur un marécage. Hein. Ça, pour le coup, ça, s'il y a un truc qui n'a pas évolué, c'est que le parc, c'était un marécage. Pour ce monument, il faut bien comprendre que Tony Garnier, il a été formé à Rome, à la Villa Médicis, très précisément, et il a une profonde culture antique. Bon, même si ça ne se ressent pas forcément dans sa cité industrielle, pour le parc, là, il a une nouvelle idée, hein, dont il va chercher l'inspiration très loin, jusqu'en Égypte ancienne. Et cette inspiration, c'est l'île de Philae, en Égypte. Bon, vu que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'égyptologues qui m'écoutent, hein, et s'il y en a, eh ben bonjour, merci d'être là, merci d'exister. Bon allez, je vous explique l'histoire de cette île. En fait, dans la mythologie égyptienne, Osiris, c'est le dieu majeur de l'Égypte. C'est l'inventeur de l'agriculture et de la religion. Il règne avec clémence et bienveillance aux côtés de sa sœur et épouse, Isis. Jusqu'au jour où Seth, dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation qui est son frère, est malade de jalousie et l'assassine et prend sa place sur le trône d'Égypte. En plus de tuer Osiris, parce que visiblement ça ne lui suffit pas, il le découpe en morceaux et répand ses membres dans le Nil. Isis, folle de chagrin, bannie du royaume, rassemble ses morceaux et reconstitue le corps de son défunt mari, Osiris, qu'elle enveloppe dans des bandelettes, créant ainsi la toute première momie. Grâce au dévouement d'Isis, Osiris peut enfin gagner l'au-delà dont il devient le souverain ultime. Sur l'île de Philae, en Égypte, du coup là on est de retour sur notre terre à nous, on célèbre ainsi Isis dans un temple au milieu des eaux du Nil, d'où elle a sorti le corps d'Osiris pour lui permettre d'atteindre l'immortalité. C'est donc bien l'immortalité que souhaite apporter Tony Garnier aux 10 600 Lyonnais tombés au combat entre 1914 et 1918. Édifiée sur l'île aux Cygnes, qui était son nom auparavant, cette Philae lyonnaise, émergeant des eaux du Rhône au sein de l'enceinte naturelle du parc de la Tête d'Or, devient donc un sanctuaire, un lieu de recueillement et de souvenirs. Vous le voyez autour de nous, Tony Garnier a conçu ce monument aux morts en prenant compte la topographie même de l'île. Les arbres et l'eau font tout autant partie de l'édifice que les constructions de béton. Il faut y voir une église à nef unique, avec en son centre un immense cénotaphe représentant six colosses portant un sarcophage, le symbole des Lyonnais tombés au combat. On les imagine déjà avancer et s'enfoncer doucement dans les eaux du lac, disparaissant lentement à mesure qu'ils descendent les escaliers. Par rapport au projet initial, plusieurs éléments sont laissés de côté, comme les grandes colonnes qui auraient dû accueillir les visiteurs le long de l'escalier qui fait aussi office d'embarcadère, et le deuxième escalier qui était censé être à l'arrière de l'île a aussi sauté. Plusieurs éléments décoratifs tout le long ont aussi disparu par rapport au dessin original de Tony Garnier. Tout autour de l'île, un récit à quatre étapes nous permet de retracer la guerre avec des bas-reliefs et les noms de tous les morts lyonnais. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par la droite des escaliers, donc pas par le plus proche quand on vient du souterrain, il faut aller en face. A savoir qu'à la base, Tony Garnier imaginait qu'on ne puisse accéder à l'île que par barque, en accostant sur les grands escaliers justement. Et donc comme je disais tout à l'heure, le tunnel a été construit en 1935 pour faciliter l'accès et le recueillement à la population. Donc quand on fait le tour du monument, on aperçoit donc tous les noms des morts le long de l'île et on a quatre étapes avec quatre bas-reliefs qui représentent quatre moments de la guerre 14-18. Ce sont deux sculpteurs de talent, Claude Grange et Louis Bertola, qui est lui lauréat du prix de Rome de sculpture en 1923, qui s'occupent des bas-reliefs encadrant l'enceinte de béton. On voit une belle différence de style entre les deux sculpteurs d'ailleurs. Si on fait le trajet dans le sens de l'histoire, le premier bas-relief nommé « Le départ » représente des soldats français se préparant à affronter autant l'ennemi que le froid. Plus loin, l'œuvre appelée « La guerre », donc ça c'est le deuxième bas-relief, on aperçoit des soldats lyonnais complètement enfoncés dans la boue, qui tirent avec force une pièce d'artillerie qui semble enlisée. L'effet est magistral, hein, on les imagine autant enfoncés dans la boue qu'ils le sont ici dans la pierre. Lorsqu'on fait le tour de l'autre côté de l'île pour continuer le chemin, on voit que Claude Grange, le deuxième sculpteur, au contraire de Louis Bertola qui lui misait sur le réalisme, hein, il représentait des soldats au front, eh bien lui, ici, mise plus sur le côté allégorie. Le troisième bas-relief, appelé « La Victoire », représente une femme nue brandissant les lauriers devant un fier cheval cabré. Alors est-ce qu'il y a une référence aux victoires du sanctuaire des Trois Gaules que lui aurait soufflé Tony Garnier ? Eh bien ça, l'histoire ne le dit pas, on ne sait pas. Mais l'allégorie continue dans le dernier bas-relief, qui lui aussi a été fait par Claude Grange, qui s'appelle « La Paix », qui représente une femme, habillée cette fois, sûrement la paix elle-même, qui montre à ses enfants français, et peut-être allemands, on ne sait pas, les rameaux d'olivier, symbole de paix d'une main, et de l'autre, indique d'une paume tendue que ça y est, c'est la fin de la guerre. Et lors de la cérémonie d'inauguration du monument qui a lieu le 5 octobre 1930, Édouard Herriot prononcera ces mots. Pour accueillir et grouper les plus chers de toutes les ombres, nous avons choisi le lieu qui nous a paru le plus beau. Nous ne regrettons pas de l'avoir placé à l'écart des curiosités banales ou indiscrètes, si chacun de ceux qui viendront y lire un nom bien-aimé y rencontre, pour envelopper sa méditation, le calme et le silence. Pour tous, ce monument sera désormais un symbole. À tous, cette liste funèbre rappellera la stupide atrocité de la guerre, le dernier plus barbare des sacrifices humains. Et voilà, c'est donc ici, sur cette île du souvenir, en plein milieu du lac, en plein milieu du parc, que s'achève cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes de streaming, ça fait toujours plaisir et ça permet au podcast d'être plus connu. Je tiens à remercier les équipes des espaces verts de la ville de Lyon, notamment Isabelle Forestier, Fabien Nuti et Juliette Babin, qui se sont volontiers prêtés au jeu et ont partagé leur savoir si précieux sur le parc. Je remercie aussi chaleureusement Florence Valin et son acolyte Damien du Véritable Théâtre de Guignol de m'avoir ouvert aussi sympathiquement les portes de leur univers enchanteur. Et bien sûr, je remercie les équipes des archives municipales avec qui, je le rappelle, je coproduis cet épisode de m'avoir aidé dans la préparation. Et je termine par vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être fidèles et de plus en plus nombreux à écouter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour suivre la suite des aventures sur les plateformes du streaming. Abonnez-vous aussi à mon compte sur Instagram parce que je partage pas que de l'audio et des podcasts, mais je partage aussi plein de petites vidéos pédagogiques hyper cool sur des petits trucs qui sont un peu plus courts, carrément plus courts à raconter. Des petites anecdotes, ça fait toujours plaisir. Et surtout, les fameuses stories lyonnaises. Je dis les fameuses comme si j'étais suivi de ouf. Donc voilà, abonnez-vous pour suivre la suite des aventures. Allez, je vous dis à très bientôt pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire.